La foi nos 55. La foi de Marie. Le 24 décembre 2017. La veille de Noël. Rêve. Brian Kozurek. Ce matin, nous continuerons notre étude sur la foi et, ce matin, je voudrais examiner la naissance de Christ et la foi qu'il a fallu à Marie et à Joseph pour accueillir la naissance du Fils de Dieu. Puisque seuls les livres de Matthieu et de Luc relatent cette histoire, nous commencerons par examiner la scène que le livre de Matthieu nous décrit. Matthieu 1.18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. 19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui n'aimait voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Tout d'abord, nous devons examiner ce qui aurait pu se passer avec Joseph, car il était légalement fiancé et sur le point d'épouser la Vierge Marie. Passons maintenant au livre de Luc pour reconstituer ce scénario alors que cela commence à promettre une belle histoire. De cette façon, nous aurons une meilleure compréhension de ce qui se passait dans la tête de Joseph et de Marie. Et puisque le livre de Matthieu Néhémie nous donne pas tous les détails, allons maintenant dans le livre de Luc et lisons plus encore sur la naissance de Jésus. Luc 1.1 Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, deux suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. 3 Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. 4 Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ce que Luc nous dit ici, c'est-à-dire que pour mieux comprendre l'évangile qui est-à-dire la bonne nouvelle concernant Jésus, le Messie promis, il nous dit qu'il va nous informer de tous les détails. Puis Luc commence à raconter les détails de l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. 5 Du temps d'Hérode, roi de Judée. Il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Maintenant, cette classe d'Abia ou Abija, qui est mentionnée ici, était l'un des 24 classes ou divisions en lesquelles les sacrificateurs du temple étaient divisés afin que le service dans le temple se tienne presque tous les semestres ou toutes les 24 semaines. Selon l'historien Joseph dans son ouvrage Antiquissi 7.14.7, il dit, les sacrificateurs parmi les Juifs ont longtemps été séparés en 24 divisions. Chacune était responsable de la conduite du culte au temple pendant une semaine à intervalles semestriels. Nous voyons donc que l'histoire commence par nous parler d'un certain sacrificateur du nom de Zacharie, qui était l'un des sacrificateurs officiant au temple lors de sa classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Maintenant, rappelez-vous qu'Aaron était le premier souverain sacrificateur dans la tradition juive en dehors, bien sûr, de Melchizedek d'après qui le sacerdoce a été façonné. Dans Wikipédia, nous lisons, selon la Bible, la tribu de Lévi Esther l'une des tribus d'Israël, selon la tradition, descendant de Lévi, fils de Jacob. Les descendants d'Aaron, qui était le premier Kohen Gadol, souverain sacrificateur d'Israël, ont été désignés comme la classe du sacerdoce, les Kohanim. La tribu de Lévi accomplissait des devoirs religieux particuliers pour les Israélites et avait aussi des responsabilités politiques. En retour, on s'attendait à ce que les tribus propriétaires de terres donnent la DGME aux Kohanim, les sacrificateurs officiant dans le temple de Jérusalem, en particulier la DGME connue sous le nom de le Mazer Richon. Les Lévites qui n'étaient pas Kohanim jouaient de la musique dans le temple ou servaient comme gardes. Lorsque Josué conduisit les Israélites dans le pays de Canaan, les Lévites furent la seule tribu israélite qui a reçu des villes, mais à qui on n'a pas permis d'être propriétaires terriens parce que l'Éternel Dieu d'Israël laissait leur héritage, comme il le leur a dit, Josué 13.33. Les descendants remarquables de l'ascendance de Lévite, selon la Bible, incluent Myriam, Samuel, Ézéchiel, Ezra, Malachie et Jean-Baptiste. Maintenant, en revenant à notre histoire, nous voyons que Zacharie et Élisabeth étaient tous les deux descendants de la tribu de Lévi, qui appartenait à l'ordre sacerdotal d'Israël. Ainsi, tous les deux savaient ce que signifiait d'être au service de Dieu pour le peuple. Si tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Maintenant, ce mot juste, righteous, en anglais, vient du vieux mot anglais righteousness, et cela signifie qu'ils étaient tous les deux corrects dans leur connaissance des choses de Dieu. Et la Bible dit, Proverbe 12.5 Les pensées des justes Néhémie sont qu'équité, les desseins des méchants Néhémie sont que fraude. Ainsi, ceux qui sont considérés comme justes dans la Bible sont des gens bien pensants, et Zacharie et Élisabeth étaient considérés comme tels par Dieu. Et nous lisons dans 1 Jean 3.7 Petits enfants, que personne Néhémie vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même, Dieu est juste. Nous voyons donc que vous êtes considéré juste parce que vos actions sont justes. Celui qui pratique la justice est juste. Et à nouveau nous lisons, 1 Jean 2.29 Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Et si quiconque fait ce qui est considéré comme juste, alors ce sont ceux qui sont également nés de son esprit, l'esprit de Dieu. Car l'apôtre Paul nous a enseigné dans Romains 3.10 selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Par conséquent, personne Néhémie peut être considéré comme juste par lui-même sans être né de l'esprit juste de Dieu. Et par conséquent, comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, personne Néhémie peut comprendre les choses de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Par conséquent, personne Néhémie peut connaître et comprendre les choses de Dieu afin de pratiquer les choses de Dieu qui sont justes, à moins que l'Esprit de Dieu n'opère en lui à la fois le vouloir et le faire. Comme Paul a dit dans Philippiens 2.13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Il n'est donc pas surprenant que ceux qui Néhémie sont pas justes, et qui Néhémie pratiquent pas ce qui est juste, droit, Néhémie sont pas nés de Dieu, comme nous le voyons dans 1 Jean 3.10 c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque Néhémie pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Maintenant, cela devrait nous amener un peu plus loin dans la compréhension de cette histoire de la première église, qui était l'église destinée à accueillir la première venue du Fils de Dieu. On voit alors qu'il y avait certaines personnes qui avaient l'Esprit de Dieu vivant en eux, et qui donc étaient justes et ont manifesté cette justice en faisant ce qui était juste. Maintenant, c'est important de comprendre cela parce que trop de fois les gens pensent que le baptême du Saint-Esprit vient via une expérience surnaturelle sensationnelle. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, je n'ai dit pas que vous n'aurez pas d'expérience surnaturelle. Mais ce que je dis c'est que ce n'est pas parce que vous avez eu une expérience surnaturelle que vous avez l'Esprit de Dieu vivant en vous. Cette pensée m'a frappé l'autre matin, alors que je répondais à un courriel d'un de mes précieux amis en Norvège. Je connaissais ce frère depuis bien des années. Il était marié et maintenant il a des petits-enfants. Il voit la réalité d'avoir la bonne pensée et de pratiquer le bien dans leur vie et dans leur prière. Et je lui ai dit dans ma réponse par courriel, la Bible dit d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il n'est mis sans, détournera pas. Cela signifie, gardez-les près de votre cœur et montrez-leur de l'amour, à la fois correctif et en leur enseignant l'amour, la miséricorde et la grâce. Leur expliquant à faire la différence entre le bien et mal acquis, et rappelez-vous toujours, ce faisant, vous transmettez les doxas de Dieu, qui sont ses opinions, ses valeurs, et ses jugements, ceux de Dieu, et qui les rendra un avec Dieu comme ou de la même manière que Jésus était un avec Dieu. Dans Jean 17.22 nous lisons, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Et à nouveau dans Jean 17.26 nous lisons, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Et dans 1 Jean 1.1 nous lisons, « Un ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, de car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. 3 Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 4 Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. Et lorsque vous transmettez les doxas de Dieu, vous transmettez la vie de Dieu à votre progéniture. C'est ce que vous transmettez à vos enfants, ils sont non seulement votre progéniture, mais ils sont la progéniture de Dieu lui-même, et en transmettant la doxa de Dieu, que vous avez reçue, à vos enfants, vous les remplissez de son signe, de sa vie, car sa parole est esprit et vie. De Pierre 1.2 Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. 3 Comme sa divine puissance, sa parole, nous est donnée tout ce qui contribue à la vie et à la piété, qui est d'être comme Dieu, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, doxa, et par sa vertu, ce mot vertu signifiant le fait de grandir en des enfants pleinement mûrs. 4 Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. J'espère et j'ai confiance que lorsque vous verrez le plan divin de Dieu de transmettre sa doxa de son Fils premier-né, puis en descendant, en descendant, en descendant, à toute la semence de Dieu. Et ça, c'est à notre devoir en tant que parents de donner cette doxa de Dieu à nos enfants et aux enfants de nos enfants. On nous dit dans Actes 2.39 car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et à nouveau dans Esaïe 65.23 nous lisons, ils n'y travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. 24 Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Et avant d'aller plus loin, je pense que vous devez tous étudier les sermons de frère Branham sur l'adoption. Il existe 4 sermons qu'il a prêché en 1960 dans une série de sermons, et l'adoption numéro 1, 60-05-15-20 beaucoup de petites mamans aux jolis visages. Assises ici, certaines de 60 ou 70 ans, diront, mais, moi, qu'est-ce que j'ai fait, frère Branham, vous avez élevé vos enfants. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. 21 Peut-être qu'un vieux papa assis ici dira, eh bien, moi, j'ai hercé les champs. J'ai fait ceci. Je n'ai jamais prêché. Mais vous avez rempli exactement votre mission que Dieu vous avait confiée. Il y a une place pour vous. Écoutez, vous n'avez pas besoin d'être prédicateur pour remplir vos enfants de la doxa de Dieu. Vous, les sœurs qui ont des enfants, vous êtes les prédicateurs de ces petits-enfants. Remplissez leur petite tête de la parole de Dieu au point où quand ils auront fait tout ce qu'ils peuvent faire pour se tenir debout, ils se tiendront debout en conséquence. Dieu vous a donné une position en tant qu'intendant sur vos enfants. Vos enfants sont l'héritage du Seigneur. Vous devez leur donner la protection dont ils ont besoin. Levez-vous avec eux et priez avec eux avant qu'ils n'aient mis prennent le bus. Et quand ils rentrent à la maison, chaque jour, parlez-leur pour voir ce que le diable a essayé de leur enseigner. Ensuite, apprenez-leur ce qu'ils doivent chercher et comment gérer chaque situation. Il y a des années, il y avait cette petite fille qui était en route pour l'école quand elle a été approchée par un prêtre. Et j'espère que vous verrez par cette histoire comment vous, en tant que parents, vous pouvez et devriez donner à vos enfants la formation appropriée à la maison. Parce que ce que vous faites, c'est à leur donner l'antidote contre le poison des démons qu'on injecte dans leurs petits esprits à l'école. Cette petite fille était sur le chemin de l'école quand elle a été approchée par un prêtre. Et alors qu'elle était approchée par ce prêtre, ce dernier lui a demandé d'assister à son enseignement religieux, mais elle a refusé, en disant que c'était contre la volonté de son père. Puis le prêtre a dit qu'elle devrait lui obéir et non pas à son père. Et elle a répondu, « Oh, monsieur, on nous apprend dans la Bible à honorer notre père et notre mère. » Mais il a dit, « Vous n'avez pas à lire la Bible. » Mais elle répondit, « Mais monsieur, notre Sauveur a dit, « Sondez les Écritures, Jean 5.39. » Et le prêtre répondit, « C'était uniquement pour les Juifs, et non pour les enfants, et vous Néhémie la comprenez pas. » Mais Néhémie s'était pas arrêtée là parce qu'elle était bien formée. Elle a dit, « Mais monsieur, Paul a dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » 2 Timothée 3.15. « Oh !» a déclaré le prêtre, Timothée était formé pour devenir évêque. Et il était enseigné par les autorités du Église. « Oh ! Non ! Monsieur !» dit l'enfant, il a été enseigné par sa mère et sa grand-mère. Sur ce, le prêtre se détourna, disant, « Cette petite fille en sait assez sur la Bible pour empoisonner une paroisse. » Ézéchiel 44.23-24 « Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. » 24 « Ils seront juges dans les contestations, et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils sanctifieront mes sabbats. » Vous savez que certaines personnes pensent que Malachie 3.16-18 consiste à se réunir pour parler de la parole. Je crois que Malachie 3.16-18 parle de ce que vous faites en famille, dans votre maison avec votre famille. Malachie 3.16 « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. 17 Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 18 Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui n'est aimé le sert pas. L'adoption numéro 4, 60-05-22 soir 212. Et si chacun de vous qui êtes ici en ce moment, vous n'avez pas été placé dans votre position, il se peut que vous soyez seulement une ménagère. Eh bien, vous dites, frère Branham, je n'ai jamais rien fait de ma vie. Je n'ai mis, suis pas un prédicateur. Eh bien, peut-être que Dieu vous a fait naître ici, pour que vous éleviez une famille, et peut-être que de cette famille sortira une autre famille, et qu'un enfant de cette famille-là sera un prédicateur qui enverra un million d'âmes à Christ. Il fallait que vous soyez là. Vous êtes ici dans un but. Saviez-vous ça? 213 Eh bien, voix dite, je n'ai jamais rien fait d'autre que passer la herse dans ces vieilles mottes de terre. Et je repartais tous les soirs. Je n'y savais pas comment faire pour suffire aux besoins des enfants. Je regarde ces pauvres petits, qui n'avaient pas de chaussures. Je restais assis là, à pleurer. J'ai réussi à m'avoir un boguet, et maman et moi, on allait à l'église. Néhémie, vous faites pas de soucis, frère. Continuez simplement à l'aimer. Il a un but pour vous. Restez exactement comme vous êtes. Continuez simplement comme vous faites. Voyez, vous Néhémie prêcherez peut-être jamais une seule prédication, mais vous serez peut-être l'arrière-grand-père de quelqu'un qui le fera. 214 Saviez-vous que Dieu a attribué à, voyons un peu, là, comment s'appelait-il, Lévi d'avoir payé la dégime alors qu'il était dans les reins d'Abraham, quand Melchisédek Esther allait au-devant de celui-ci. Combien savent ça? Et, voyons un peu, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob Lévi, Esther à dire, père, grand-père, arrière-arrière-grand-père, quand il était dans les reins, dans la semence, de son arrière-arrière-grand-père, la Bible lui a attribué d'avoir payé la DGME à Melchizedek. Oh! Là là! Frère! L'adoption numéro 260-051-824 maintenant. Souvenez-vous, Dieu vous a prédestiné, par sa préscience. Comme quoi vous alliez arriver à ceci. Esther, ce que tout le monde comprend, levez la main. Vous voyez, Dieu, par sa préscience, vous a prédestiné à arriver au pays promis. Pour le chrétien, aujourd'hui, le pays promis, qu'Esther ce que s'Esther, levez donc la main, si vous le savez, la promesse Esther pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Et dans Esaïe 28, 18, il faut que ce soit précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est Esther bon. Car c'est Esther par des lèvres balbutiantes et d'autres langues que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos, le pays du sabbat, dans lequel je leur ai dit qu'ils devaient entrer. Mais malgré tout ça, ils n'ont pas voulu écouter, ils ont hoché la tête et se sont éloignés, ils ont refusé d'écouter. Voyez, exactement. Maintenant, en revenant à notre histoire, nous voyons que Zacharie et Élisabeth n'avaient pas encore d'enfants, mais ils ont tous deux servi Dieu dans leur vie, comme nous le lisons au verset 7. C'est ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. 8. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, 9 d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. 10 Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. 11 Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. 12 Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. 13 Mais l'ange lui dit, Néhémie, crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. 14 Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 15 car il sera grand devant le Seigneur. Il n'est ni boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. 16 il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. 17 il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Maintenant, écoutez, nous examinons la promesse de la venue du Messie et tout ceci est la préparation de la venue de ce Fils promis. Et cependant, nous voyons la promesse d'un autre Fils promis, Jean. Pourquoi? Parce qu'il devait préparer le cœur des gens à accueillir le Messie, qui était le Fils de Dieu. Ainsi, ici, nous examinons toujours la préparation de Dieu. 18 Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme Esther avancée en âge. » 19 L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Vins et voici, tu seras muet. Et tu n'es mis pour à parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » 21 Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. 22 Quand il sortit, il n'est mis plus leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple, il leur faisait des signes, et il resta muet. 23 Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. 24 Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans, 25 C'était à la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Maintenant, pensez-y. Voici un vieil homme et une vieille femme ayant reçu une promesse comme Abraham et Sarah, et tout cela n'est qu'une préparation pour le reste de notre histoire concernant la naissance de Jésus, le Fils premier-né de Dieu. 26 Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. 27 Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28 L'ange entra chez elle, et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » 29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. 30 L'ange lui dit, « N'aie ni crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » 31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33 Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. 34 Marie, dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai mis qu'en ai point d'homme? 35 L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 36 Voici, Élisabeth, tes parentes, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile Esther dans son sixième mois. 37 Car rien n'est impossible à Dieu. 38 Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Or, remarquez sa réponse, après que l'ange a expliqué ce qu'était la promesse, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a jamais dit, c'est incroyable. Ou je n'en crois pas mes oreilles. Non. Elle a dit quoi que soit la promesse du Seigneur, Je l'accepte comme mienne. Qu'il me soit fait selon ta parole. Regardez sa foi. Elle a entendu la promesse et a reconnu que c'était une promesse biblique car le sage avait promis qu'une vierge concevra et un ange de Dieu Esther descendu et lui a cité cette promesse biblique. Et vous dites, eh bien, c'était elle. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, un ange Esther descendu en 7 heures et vous a cité une promesse. Et donc, quelle est votre réaction? L'ange vous a dit, je Néhémie vous appelle plus église, je vous appelle épouse. L'ange a dit, vous, êtes chair de sa chair et osé de son osé et esprit de son esprit. Dans le message de l'ange, c'est Esther le lever du soleil 65-04-18 à midi, 110. Et maintenant, le monde entier doit reconnaître qu'il est Esther revenue à la vie. Il n'était pas seulement la mécanique, la parole de Dieu, il était la dynamique pour le prouver. 111 et, puisqu'il Esther l'époux, l'épouse doit ressusciter, parce qu'elle Esther une partie de lui. Et elle n'émit peut-être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations, de tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse. Si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, elle n'Esther pas l'épouse. En effet, elle Esther chair de sa chair, osée de son osée, vie de sa vie, puissance de ses puissances. Elle Esther lui. De même, que l'homme et la femme sont un. Et que la femme a été prise de son côté, elle, en recevant son esprit, l'esprit féminin, qui vient de lui, la chair de son côté, ce qui a alors constitué la mécanique et aussi la dynamique, sa femme. Son esprit à lui, et sa chair à lui, en les réunissant, cela a constitué la mécanique et la dynamique. Et votre réponse, est-elle comme celle de Marie? Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. L'angel vous a dit, la parole parle Esther la semence originelle 62-03-8-420 remarqué. Quelle harmonie. Jésus Néhémie faisait jamais rien qu'il n'ait d'abord vu faire au Père, ou qu'il n'ait mis lui a d'abord été montré par le Père. L'harmonie entre Dieu et Christ. Voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l'épouse. Et il lui montre sa parole de vie. C'est Esther lui qui la lui montre, et elle la reçoit. Elle n'en doute jamais. Rien Néhémie peut lui nuire, pas même la mort. En effet, si la semence Esther mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. Amen. Et là j'aime un gros Alléluia. Voici le secret. La parole Esther dont l'épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu'il veut qu'on fasse de la parole. Et elle le fait en son nom. Elle a ainsi dit le Seigneur. Ensuite, la parole Esther fécondée, alors le Saint-Esprit l'arrose jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à sa pleine croissance et qu'elle ait accompli son but. 421 Ils font uniquement sa volonté. Amen. Oui, je crois ça. Personne Néhémie peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont ainsi dit le Seigneur, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu, car c'est Esther lui-même en eux qui continue à accomplir sa parole, comme il l'avait amené à terme à son époque. Toute chose, quand il était ici, il n'a pas tout mené à terme quand il était ici, car ce n'était pas encore le moment. Et quelle est-elle la réponse de l'épouse à cette promesse de Dieu? Qu'il me soit fait selon ta parole. Maintenant, revenons à notre histoire. Mais lisons maintenant Matthieu juste un instant, quand l'ange, Esther apparut à Joseph. Matthieu 1.20 comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, Néhémie craint pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. 21 Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est Esther lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22 Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 23 Voici. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. 24 Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. 25 Mais Néhémie la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et maintenant retournons à Luc chapitre 1.39. Dans ce même temps, Marie se leva, et s'en alla en hâte, vers les montagnes, dans une ville de Juda. 40 Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Ce n'était pas une petite promenade jusqu'à la maison d'Élisabeth. En fait, Marie a marché seule, en tant que mère nouvellement enceinte, pendant 90 miles, 145 kilomètres. Ce serait comme marcher de Cincinnati, dans l'état de l'Ohio, à Jeffersonville, dans l'état de l'Indiana, ou encore d'Indianapolis, dans l'état de l'Indiana, à Cincinnati, dans l'état de l'Ohio. Cette n'était pas une mince affaire, surtout pour une femme enceinte. Mais quand le Seigneur vous donne une merveilleuse révélation et que vous commencez à en voir la manifestation de cette révélation, vous êtes prêt à parcourir de grandes distances pour le partager avec les autres. 41 Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. 42 Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein Esther béni. » 43 Comment m'est-il est accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? 44 Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit d'allégresse dans mon sein. 45 Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. 46 Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. 47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. 48 Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. 49 Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom Esther Saint. 50 Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. 51 Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. 52 Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. 53 Il a rassasié de bien les affamés. Et il a renvoyé les riches à vide. 54 Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. 55 Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. 56 Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Maintenant, je veux m'arrêter ici juste un instant au cas où il y aurait un machiste qui écoute ce sermon. Parce que je sais que, tout comme les religieux musulmans sont oints d'un esprit unitaire, et que la misogynie émane de ces hommes, de même, parmi les nombreuses formes et sectes soi-disant chrétiens, nous voyons que le même esprit de machisme prévaut là où ils pensent que la femme n'est qu'un paillasson. Ce n'est pas seulement parmi les musulmans où la femme n'est pas autorisée à entrer dans la pièce où son mari mange avec ses amis hommes. La même chose se passe dans ce message parmi certains cultes qui prétendent croire le message, mais qui n'ont aucune idée de ce frère Branham a enseigné. Alors laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs. Frère Branham, le prophète de Dieu a dit qu'il y aura plus de femmes que d'hommes dans l'enlèvement. Et Dieu lui-même a donné cette précieuse révélation de la première venue du Fils premier-né de Dieu en premier à une femme, avant de la donner à son mari. Alors, Néhémie, vous fâchez pas mes frères, car en Christ il n'y a ni homme ni femme. Parce que par un seul esprit nous sommes tous baptisés dans un seul corps. 57 Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. 58 Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et ils se réjouirent avec elle. 59 Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. 60 Mais sa mère prit la parole, et dit, « Non, il sera appelé Jean. » 61 Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » 62 Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. 63 Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit, « Jean Esther son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. 64 Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. 65 La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et, dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. 66 Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. 67 Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa, en ces mots, 68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. 69 Et nous a suscité un puissant sauveur de la maison de David, son serviteur. 70 Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. 71 Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. 72 Esther ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance. 73 Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. 74 De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. 75 En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. 76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies. 77 Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. 78 Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. 79 Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. 80 Or, l'enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Luc 2.1 En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. 3 Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. 4 Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. 5 Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Les voyages de Marie et Joseph, Nazareth Esther la ville natale de Marie et de Joseph. En l'an 5 avant Jacques, juste avant la naissance de Christ, les Romains les obligent à se rendre dans leur demeure ancestrale. Ils étaient tous deux de la descendance du roi David à Bethléem. Le couple parcourt environ 80 miles, environ 129 km, jusqu'à la ville, où Christ est né finalement dans une étable et couché dans une crèche, Luc 2.1-20. Sa naissance, qui survient approximativement à la fête des trompettes, le 2 septembre en l'an 5 avant Jacques, accomplit la prophétie de Michée 5.2. Joseph, le huitième jour après que Marie a mis au monde, emmène la famille à Jérusalem, pour que le Seigneur puisse être circoncis selon la loi divine, Luc 2.21. 40 jours après la naissance de Jésus, afin d'accomplir le rite de purification de Lévitique 12. Marie et Joseph se rendent au temple de Jérusalem pour le présenter à Dieu. Le trajet était seulement de 9,6 km. Ses parents font au temple une offrande de 2 jeunes oiseaux. C'est lors de cette visite qu'un sacrificateur nommé Siméon a prophétisé sur la vie et la mission de Jésus et a béni ses parents, Luc 2.22-35. Avant que Marie et Joseph Néhémie quittent le temple pour rentrer chez eux, une femme, nommée Anna, une veuve et prophétesse, qui vivait dans la maison de Dieu, les bénit également, Luc 2.36-38. La famille fait ensuite le court voyage de retour à Bethléem. Maintenant, je veux que vous regardiez les conditions qu'ils ont dû endurer pour avoir pris position pour la manifestation de la révélation que Dieu leur avait donnée. Nous voyageons aujourd'hui, mais avant de partir, nous vérifions la pression de nos pneus et le niveau d'huile, et utilisons nos téléphones portables et nos connexions Internet pour faire la réservation d'une chambre d'hôtel, de peur qu'une fois arrivés nous n'en trouvons pas. Je crois que ce sont les Patton qui m'ont dit qu'ils avaient eu ce genre de problème une fois, quand ils sont allés à une réunion de famille, et quand ils sont arrivés là-bas. Il n'y avait pas de place pour séjourner avec la famille, et il n'y avait pas de place dans les auberges locales, et ils ont donc dû aller en voiture, à environ 1h30 de route, quelque chose comme ça, afin d'atteindre l'hôtel le plus proche ayant des chambres vacantes. Car il y avait une sorte de convention dans la ville de la réunion de famille. Fr. Steve, pourriez-vous vous imaginer parcourir ce trajet avec Sandra sur le dos d'un âne? Je me souviens de mon premier voyage missionnaire aux Philippines en 2000, où toute une église a parcouru 26 miles, environ 42 km, de montagne et de jungle rien que pour assister à nos réunions, là-bas dans un petit pavillon de fortune qui leur servait d'église. Et puis des années plus tard, à Blantyre, Malawi, deux camions remplis de croyants avaient roulé 3 jours sur 1300 km depuis le Mozambique rien que pour assister à nos réunions là-bas. Et ils étaient empilés dans ces camions à bestiaux dépourvus d'espace pour s'asseoir car ils étaient environ 70 croyants, debout, côte à côte pendant 3 jours, alors qu'ils parcouraient des chemins de terre pour venir. Et je n'oublierai jamais un homme qui, en 2004, a sillonné tout le fleuve Congo, et il lui a fallu plus de 2 semaines pour arriver, d'abord en canoë, pirogue, puis en bateau de pêche, puis en barge jusqu'à ce qu'il ait parcouru des milliers de kilomètres sur l'eau rien que pour assister à nos réunions. Et frères et sœurs, c'est une expérience qui vous rend très humble. Que des gens viennent de si loin pour écouter la parole du Seigneur. Et Néhémie sont pas venus me voir. Ils sont venus voir Dieu. Et comme le disait frère Branham, notre don est alors de mourir à nous-mêmes afin qu'ils puissent voir le Dieu qu'ils sont venus voir. Frère Branham l'exprime encore mieux quand il dit dans son sermon, l'invasion des États-Unis 54-05-09-89 je. Parfois, je pense à mon ministère. Je vois des gens qui viennent. Je vais dans ma chambre d'hôtel. Et je dis, oh Dieu. Qui les gens viennent-ils voir? Moi ou toi? Voyez? S'ils viennent pour me voir. Moi? Ils sont encore perdus. Oh Dieu. Démolis-moi. Ôte-moi de là. Sister toi que je veux représenter. Celui devant qui je me tiendrai un jour, les mains tremblantes et le corps affaibli, tremblant, à te regarder. Sachant que le destin de mon âme dépend de ta décision. Exaltons Christ. Si pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, c'était l'enfant à son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. 8 Il y avait, dans cette même contrée, Des bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. 9 Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. 10 Mais l'ange leur dit, « Néhémie, craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. 11 Esther qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 12 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. 13 Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, 14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. 15 Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. 16 Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. 17 Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. 18 Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. 19 Marie garda toutes ces choses, et les repassait dans son cœur. 20 Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. 21 Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. 22 Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur. 23 Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. 24 Et pour offrir en sacrifice de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. 25 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. 26 Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il n'aimait mourir point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. 27 Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, 28 Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit, 29 Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. 30 Car mes yeux ont vu ton salut, 31 Salut que tu as préparé devant tous les peuples. 32 Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. 33 Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. 34 Siméon les bénit. Et dit à Marie, sa mère, voici. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. 35 Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. 36 Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. 37 Restée veuve, et âgée de 84 ans. Elle n'aimait quitter pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. 38 étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 39 Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. 40 Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 41 Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. 42 Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Maintenant, nous pourrions continuer encore et encore sur la façon dont Hérode s'est permis à vouloir tuer le petit Jésus et comment ses parents ont dû fuir en Égypte et tant d'autres histoires des épreuves qui sont associées à l'éducation du jeune Messie jusqu'au jour où il laisse terre entrer dans le fleuve Jourdain et ensuite Dieu l'a rempli de sa plénitude. Et ça, c'était 30 ans plus tard. Alors songez à toutes les années pendant laquelle Joseph a enseigné non seulement la menuiserie à Jésus, mais aussi la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Prions.